Emprise. Après les ateliers Berthier au Festival d'automne à Paris, le metteur en scène Sylvain Creusevaux et sa troupe transportent les démons, librement inspirés du roman de Dostoïevski, lors d'une tournée en France toute la saison 2018-2019. Les démons est un spectacle habité avec aux commandes 11 comédiens fervents en l'art du théâtre. Un plateau en fusion où le grotesque le dispute à l'effroi, où se consument le feu et la glace pour une réflexion incarnée et vivante qui nous invite à nous pencher sur l'aporie d'un modèle d'organisation sociale et politique moderne. Emprise, aujourd'hui avec Sylvain Creusevaux et l'un des 11 comédiens des démons, Nicolas Bouchot, au Théâtre National Bordeaux-Aquitaine. Sylvain Creusevaux, je sais que vous préférez laisser parler les acteurs et donc c'est tout à votre honneur, mais quand même j'ai des questions à poser au metteur en scène que vous êtes. Après Le Capital et son singe, d'après Le Capital de Karl Marx en 2014, après Angelus Novus, Antifaust, d'après Faust de Goethe en 2016, vous vous attaquez aujourd'hui à Dostoïevski, à son roman Les Démons, pour ne citer que c'est vos trois derniers spectacles. Est-ce qu'on peut dire que justement il y a des échos entre ces trois pièces ? Et est-ce que ce sont ces deux dernières pièces que j'ai citées qui vous ont conduit au démon de Dostoïevski ?
Non, ce qui m'a conduit au démon, très concrètement, c'est que pendant que nous travaillions Le Capital de Marx en 2013, on travaillait beaucoup sur la formation de la Première Internationale, l'association internationaliste européenne qui est née en 1864 et qui réunissait les différentes sections nationales ou ce qui allait devenir en tout cas les sections nationales. Ils se voyaient une fois par an dans un pays européen et en 67 ils se réunissent à Genève, enfin une partie de l'international se réunit à Genève, et Dostoïevski, qui est à ce moment-là en voyage en Europe, assiste à la réunion. Donc il assiste à ce que sont devenus d'anciens camarades qu'il avait connus dans les années, à la fin des années 40, au début des années 50. Et lui, il a choisi un autre chemin. Et il assiste à cette réunion et il est un peu effrayé, il prend peur un peu de ce qui semble être en devenir le mouvement ouvrier. Et puis surtout la construction du socialisme européen, occidental. Sous sa forme occidentale. Il prend un peu peur. Il a un peu peur des Russes qui produisent une idéologie anti-russe en se servant des concepts de l'Europe occidentale. Et c'est quand même cette réunion, notamment, et là où il en est de son parcours personnel, individuel, qui va être la genèse du projet Les Démons, quoi. Et donc, c'est à la suite de que je me suis rendu compte qu'il était dans les parages, que j'ai fait le lien entre le travail sur le 19e et Dostoïevski. Puis je me suis dit faudra qu'on fasse Les Démons, et c'est comme ça qu'on y est arrivé, tout simplement, quoi.
Est-ce que le roman Les Démons a été écrit par Dostoïevski en 69, publié en 71, en réaction, comme vous l'avez dit, à ses inquiétudes, même à sa peur et sa colère face au mouvement politique révolutionnaire en Russie. Et vous, quel était votre désir en montant cette pièce ? Est-ce que c'est aussi une inquiétude qui vous y a poussé ?
Une inquiétude des mouvements révolutionnaires ?
Non, mais de l'actualité d'aujourd'hui, de la situation dans le monde ?
Sava Lolov, qui joue Fedka, Fyodor Fedka et l'évêque Tikhon dans le spectacle, a écrit une réplique, parce que les acteurs écrivent des répliques, qui d'ailleurs clôt le personnage de Fedka, et qui dit, dans Les Démons, dans notre mise en scène, et qui dit, Faites attention, Dieu est caché dans les décombres. Et il a tout écrit là, il a presque tout écrit la création, c'est-à-dire nous sommes d'une, enfin je suis d'une génération qui doit rassembler dans les décombres de du XXe siècle et qui doit noter, qui doit retravailler l'échec du mouvement socialiste européen né au XIXe siècle et qui était là pour essayer de construire une autre voie à la construction de la société européenne. Et dans la déconstruction, dans la déchristianisation du mouvement socialiste, parce que c'est, tout est là, hein. Vous savez, Dostoïevski, lui, il dit le problème, la question du socialisme, c'est pas la question des moyens de production, hein, c'est la question de l'athéisme. Lui, ça, la question, c'est Dieu pour lui. C'est quoi une société, sur quoi elle se fonde quand elle ne se fonde pas sur un père symbolique et donc une société de frères et de sœurs. Donc quand il n'y a plus de Dieu, comment on construit le tissu social se fonde sur quoi? Et donc la société occidentale du 19e siècle a dit elle se fonde sur les droits. Et la France, qui représente pour Dostoïevski une des figures emblématiques de cette construction, eh ben, elle le fonde sur son emblème liberté, égalité, fraternité. Et il y a une critique de Dostoïevski de ces concepts qui pour lui sont des concepts extérieurs, faux, et qui ne peuvent pas être vrais s'ils ne sont pas portés par les êtres à l'intérieur. C'est pour ça qu'il adosse au droit abstrait, au droit de l'homme, il adosse le Christ. Et donc, comme moi, je suis né au reflux dans un moment de reflux historique de cette grande construction. Moi, je suis né dans les années 80, c'est-à-dire des gens théoriseront la fin. Fukuyama théorisera à ce moment-là la fin de l'histoire en 91. Donc, je suis à la fin d'une histoire. Évidemment, on n'y a jamais cru à cette fin d'histoire. Donc je ne veux ni lâcher sur la construction socialiste ou communiste de la société. Mais je sais qu'elle ne peut pas se faire dans la forme qu'elle a pu prendre dans les deux derniers siècles. Et je ne veux pas lâcher non plus sur le fait que nous sommes assez grands pour vivre sans Dieu. Mais on doit bien pouvoir dire et remarquer que dans les décombres d'une tentative, d'une hypothèse, effectivement, on voit ça et là, non pas des retours, mais des nouvelles formes religieuses, en fait. Donc nous devons nous y interroger. Donc je trouve que Dostoïevski, comme ennemi de la pensée socialiste, il ne l'a pas toujours été, hein, mais il a pu l'être aussi ennemi, ou adversaire, disons, et opposant à cette question, la question de Dieu, je trouvais que c'était un matériau particulièrement vivace aujourd'hui.
Alors quelle ligne de force vous avez tirée de ce roman foisonnant de 1000 pages pour écrire la dramaturgie du spectacle ? Il me semble que le roman quand même est construit un peu comme une pièce de théâtre avec des grandes scènes d'exposition et des scènes de dialogue. Il y a beaucoup de coups de théâtre, de rebondissements. Il y a des personnes cachées qui arrivent, qui débarquent dans une pièce, qui ont tout entendu. Est-ce que vous, ça a été la base de la construction de la dramaturgie ou bien ça a été surtout les improvisations avec les acteurs? Ou c'est les deux?
Oui, c'est dans la mêlée. C'est-à-dire l'héritage que j'avais... des aînés qui m'avaient parlé de Dostoïevski ou que j'avais pu ressentir, il y avait deux choses. Je parle des aînés qui travaillaient là-dessus dans les années 70-80. J'avais souvent entendu dire que c'était très difficile de jouer Dostoïevski parce que la pensée, les idées incarnées par les personnages de Dostoïevski semblaient ininterprétables tellement les idées excèdent les corps et donc mettent les corps dans des crises incroyables et qu'on ne sait pas comment interpréter ça. Et puis, le fait que Dostoïevski est un très très bon connaisseur de la dramaturgie théâtrale, de l'histoire du théâtre. Et effectivement, il y a notamment Shakespeare, il connaît très bien Shakespeare. Et donc il y a effectivement, on sent bien une science des coups de théâtre. Le fait qu'il écrive en série aussi, parce qu'au XIXe siècle, il écrit en feuilleton, donc ils savent très bien construire un suspense, ils savent faire entrer un personnage et puis c'est la fin du feuilleton et puis il faut attendre le périodique suivant. Je veux dire, le feuilleton, c'est-à-dire dans les journaux, quoi. ils écrivaient jamais en œuvre complète. Les œuvres complètes sortaient, l'œuvre complète sortait toujours après. Les démons, vous dites 71, mais je veux dire, ça court sur 2 ans, l'apparition des démons. Donc il faut retenir les lecteurs, il faut que les lecteurs veuillent y revenir. Donc il y a toute une construction par le suspense, une dramaturgie comme ça, qui très commerciale. Pas au mauvais sens du terme, s'il en existe un. Donc c'est une chose, théâtralisée. Et moi, j'ai l'impression que, et c'est pareil, les démons, quand on m'en parlait, quand je cherchais les sources qui nous ont précédés, souvent, on parle de Stavrogin, on parle de Piotr, les deux grands, le père de la figure nihiliste, ou la figure, et moins d'autres personnages du roman. C'est pour vous dire qu'une époque cerne une œuvre selon ses intérêts. Une époque a toujours une lecture politique d'une œuvre. Dans une autre époque, on a d'autres voies, d'autres biais, c'est d'autres choses qui vont rejaillir. Donc moi, je suis parti de ça. Mais en fait, c'est la répétition aussi, les acteurs, leurs propositions, la manière dont ils abordent les rôles, c'est dans la mêlée que se construit ce qui sonne pour moi de manière le plus fort, quoi. Et il y a des choses qui m'ont surpris dans la manière de travailler. Le risque de prendre, le risque qu'on a pris, c'est d'adapter pendant les répétitions. C'est-à-dire qu'il y avait pas je suis pas arrivé aux répétitions avec une adaptation du roman, parce qu'on fait que 3 heures, mais on pourrait faire 9 heures, non? Donc cette adaptation, elle est née au plateau.
Et comment ça se passe? Donc vous leur donnez quoi comme point de départ aux acteurs? Nicolas Bouchot.
Sylvain, il a fait un premier travail d'extirper du roman, par exemple, toutes les scènes dialoguées. Enfin, disons qu'on commence les répétitions avec un gros livre, un gros paquet de feuilles, où on a lu à peu près au début tout le roman. Voilà. Et à partir de là, des scènes sont mises en improvisation. Une fois que Sylvain a proposé une structure d'improvisation pour la journée, on improvise telle et telle scène dans tel ou tel ordre. Voilà. Et la structure bouge selon les jours. C'est-à-dire qu'on peut commencer par une scène un jour, et puis le lendemain, on va commencer par une autre scène. Enfin, c'est comme des hypothèses à chaque fois dans le travail des improvisations. Voilà. Deuxième particularité, je dis parce que moi je découvrais,
mais
donc
oui,
c'est toujours intéressant.
Oui.
Deuxième particularité, aucun acteur ne va sur le plateau avec son bout de papier ou son texte. Le texte est à la fois celui de Dostoïevski, mais réimprovisé par chaque acteur, en fait. Voilà. Donc peu à peu, il y a quelque chose d'une matière qui se met en place, qui se met en route à travers les répétitions, et qui fait que le texte, c'est celui de l'acteur ou de l'actrice, et en même temps, il y a des bouts du texte de Dostoïevski dedans. Donc c'est des allers-retours constamment. Donc par exemple, ça oblige à plein de choses, ça oblige à ce que chaque acteur ait un point de vue sur ce qu'il dit, ou sur comment il veut le dire, etc. Après, il y a une dernière chose. Sylvain, quand même, tu savais, je pense, sur deux ou trois grands moments du roman, que ces choses-là seraient dans le spectacle. Je pense au dimanche,
oui.
Je pense à Chez les Nôtres, et
oui.
Je pense à la longue, à la nuit de Stavrogin.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que quand on lit et qu'on travaille sur le roman, on pressent, on a l'intuition de certaines choses, et qui est infirmée ou confirmée par la répétition, par les acteurs, quoi.
Après, il y a des scènes qui sont précipitées en une séquence, quoi, on va dire. Par exemple, toute la prestation que fait Stéphane, donc Nicolas Bouchot, sur la beauté,
mm-hmm.
qui est le passe. Voilà, c'est une scène qui n'est pas dans le spectacle. C'est la scène du.
Qui n'est pas dans le roman, vous voulez
dire. Qui n'est pas. Ouais. Mais en fait, non, elle est dans le roman sous la forme de la fête chez...
Oui, c'est la fête, c'est ça. Ouais. Oui. Oui, c'est ça.
Mais après, oui, on transforme selon comment... La fête chez Yulia, parce que, ouais. Par exemple, le rôle des gouverneurs, de la gouverneuse et du gouverneur de la province...
Comme von Lemke, oui.
Les von Lemke n'apparaissent pas dans le spectacle, par exemple.
Et pourtant, ces deux rôles ont été présents pendant une grande partie des répétitions.
Oui, oui, oui. On les a travaillés.
Voilà. Donc oui, on a quand même, ben, on a travaillé beaucoup de choses qui sont pas évidemment dans le spectacle. Après, Sylvain, il a une chose qui m'a pas mal impressionné quand même, c'est la façon, puisque vous parlez du texte de Stéphane sur la beauté, c'est-à-dire que il a parfois une certaine façon de déplacer, de sortir des scènes de leur contexte du roman et de les remettre dans un contexte de plateau. Voilà. Et par exemple, il y a un autre truc, c'est par exemple le personnage de Stéphane. Il y a une scène où il n'est pas dans le roman, qui est chez les nôtres, qui est la réunion politique.
Oui, tout à fait. Oui, 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 j'ai eu un doute d'ailleurs.
Voilà. Parce qu'un jour, Sylvain arrive en répétition en disant, mais est-ce que ça pourrait pas être... C'est, dans le roman, c'est une institutrice qui parle, un instituteur. Et il arrive un jour en disant, mais est-ce que ça pourrait pas être Stéphane ? Donc il y a aussi ces déplacements.
C'est très troublant parce que il prend parti pour ce personnage d'instituteur, il prend parti pour la théorie de Chigalev.
Dans le roman.
Oui, dans le roman, oui.
Parce que hier, par exemple, hier soir, Nicolas a joué Stéphane chez les nôtres, donc où on a réécrit Stéphane dans cette scène avec les répliques de l'instituteur et aussi des petites réécritures. Et la manière de le jouer, et je me disais, d'ailleurs je me suis dit ça en regardant, et je me disais, il arrive à témoigner de la théorie de Chigalieva, Stéphane, hier, mais la manière avec laquelle il témoigne nous laisse à sentir qu'il vient au conflit avec son fils, en fait. Et donc, alors que chez les nôtres, dans le texte, le Chigalieva et l'instituteur forment un couple... Qui semble être un atome en devenir de certains totalitarismes. Là, on a quelqu'un qui rend compte d'un travail théorique sans y adhérer, mais qui fait ceci pour atteindre son fils et le conflit dans la scène. Donc c'est vraiment une réécriture de la scène quoi, qu'a provoqué la répétition. Et ça, je peux vous dire que quand on le voit au théâtre, on se dit, si ça avait été sur papier, on n'aurait pas su comment le jouer. C'est très net. Donc c'est vraiment quelque chose que le corps produit, enfin que la répétition produit quoi.
Est-ce que vous pouvez, Nicolas Bouchaud, nous parler du personnage, de ce personnage de Stéphane Trofimovitch Verkhovensky et du récit que vous avez construit autour de lui, notamment peut-être par les improvisations qui sont venues nourrir ce personnage?
Bah, en même temps, c'est le personnage tel qu'il est dans le spectacle, il est quand même grosso modo celui qui apparaît dans le livre, c'est-à-dire que Stéphane, c'est celui qui incarne dans le roman la pensée libérale occidentale contre laquelle Dostoïevski a beaucoup de griefs. Donc c'est un personnage qui est très, que Dostoïevski charge de beaucoup de mots, on va dire, mais en même temps il ne peut pas s'empêcher d'avoir une certaine tendresse pour ce personnage qui, dès le début du roman en fait, annonce que son programme politique libéral a foiré. Et très vite dans le roman, il sera sorti du roman à cause de son fils qui va arriver à la fin de la première partie en le confondant à propos d'une lettre et d'un mariage arrangé. Et il sera sorti de l'histoire. Donc Stéphane, il passe tout le roman à essayer de revenir un peu dans la partie, mais être complètement à la marge. Et finalement, en faisant de cette marge une espèce de chose, ben là, par orgueil, en disant « mais moi, il n'y a pas de problème, demain je peux prendre mon barda et partir sur les routes pour rencontrer le peuple russe qu'il a absolument jamais vu mais dont il a tout le temps parlé. » Voilà. Et l'autre particularité de Stéphane qui est assez belle dans le roman, c'est qu'il vit quand même au crochet de Varvara Petrovna, donc qui est la mère de Stavrogin. Il vit à ses crochets depuis des années et c'est une sorte de picassiette, donc c'est un personnage voilà, qui anime un club dans cette petite ville, un club libéral où les gens se retrouvent. Mais au début du roman, Dostoïevski le pose comme la figure qui a un peu irrigué de par ses idées libérales tous les personnages qu'on va voir arriver ensuite, donc toute la génération d'avant, donc donc Stavrogin, Chatov, qui est un personnage aussi très important dans le roman, et son fils Piotr, mais Piotr il l'a pas élevé, il a dès qu'il est né il l'a mis chez une tante et il s'en est pas occupé. Donc voilà, c'est un personnage comme ça, un peu de mais Dostoïevski, avec beaucoup d'ironie, nous dit dès le début, Stéphane, il est hors jeu en fait.
Ouais, mais il est extrêmement touchant. Moi, il me fait beaucoup rire et en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour lui.
Parce que c'est un personnage drôle dans le roman. Enfin, pas tout le temps, Mais il est oui, il est drôle. Bon, il y a toutes les scènes avec Varvara qui sont complètement où elle le martyrise en fait. Ils ont une relation complètement sadomasochiste qui dans plein de scènes est très très drôle. Oui, c'est un personnage un peu comme ça ridicule à certains moments, mais touchant à plein d'autres. Aussi touchant beaucoup parce que c'est le personnage, un des personnages du livre qui est mis sur le sur le sur le sur la touche dès le début quoi. Donc on a une empathie aussi avec lui parce que c'est celui qui est rejeté assez vite dans le livre. Et ça crée forcément une empathie.
Est-ce que c'est la haine pour son père Stepan qui fait verser Piotr Verkhovenski, le fils, dans ses comportements nihilistes révolutionnaires?
Je ne sais pas si c'est la haine pour son père qui le fait arriver au nihilisme, mais en tout cas, il y a, et c'est une ligne que Sylvain et qu'on a tirée très fortement, je trouve, dans le spectacle, est la ligne père-fils. Hein? C'est entre Stepan et Piotr. On a privilégié la ligne Stepan-Piotr plutôt que Varvara Stepan, par exemple.
Oui, mais le, c'est-à-dire, il y a sans doute dans l'écriture de Démon, le, c'est pas une question de haine, c'est une question de la que l'athéisme, puisque Stepan se considère comme un personnage athée, même si on va voir que c'est plus trouble que ça, enfin, l'athéisme produit la destruction de la famille, c'est-à-dire la destruction de la, du père, du fils, comme une allégorie descendue dans le champ social, une allégorie de Dieu descendue dans le champ social. Là, ça s'articule par le fait que Stepan a un fils dont il ne s'occupe pas et qu'il envoie dans la province chez sa tante. À partir de là, on peut construire une lecture psychologique, mais le nihilisme vient de l'athéisme. Et l'athéisme, là, s'incarne dans une relation de non-père à son fils et d'une relation de non-fils à son père. À partir de là, va s'arc-bouter, à contrario, la figure de Chatov, qui lui est la figure qui commence socialiste ni, ou nihiliste, si vous voulez, et qui, au fur et à mesure, comme Dostoïevski, va faire le chemin inverse et va retrouver une famille quand sa femme va revenir avec l'enfant de Stavrogin dans son ventre et qu'il va pardonner et accepter cet enfant. Et c'est juste au moment de la reconstruction de cette famille qu'il sera assassiné. Donc y a, on voit très bien l'articulation en arc d'ogive, enfin en arc boutant et contraire que essaye de mettre en place Dostoïevski pour donner à voir le conflit.
Mais justement, je suis contente que vous parliez de cet athéisme parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension, un malentendu entre le public français dans la salle par rapport aux démonstrations de Kirillova, qui est jouée par Kirillov dans le roman, mais Kirillova dans le spectacle interprété par Valérie Dréville, voilà, qui interpelle les spectateurs sur cette notion d'athéisme. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'on entend en Russie par athéisme. Voilà.
Alors, dans le personnage de Kirillova, enfin le personnage de Kirillova et Dostoïevski, donc là on est en 18, l'écriture, hein, c'est 1867, 8, 9, 10. La question c'est qu'est-ce qu'il entend lui par athéisme? En Russie, l'athéisme c'est comme partout, comment dire, quand la volonté est toute à l'homme, quoi. C'est-à-dire quand Dieu n'existe pas. Pourquoi vous dites qu'il y a une contradiction, il y avait une
Je sais pas,
malentendue?
parce que je pense que il y a une différence entre ce qu'on entend en Russie par l'athéisme et ce qui le danger en tout cas qu'il représente pour les Russes à cette époque-là, pour lui,
Pour
hein, selon lui,
Dostoïevski,
oui,
ouais.
selon lui, et la façon dont nous nous revendiquons athées et fiers de l'être, quoi, voilà. Peut-être que
Alors, on
nous
se
avons
revendique athée fier
perdu,
de l'être?
ouais, je pense que nous avons perdu ce que c'est que l'athéisme véritablement.
Non, mais vous touchez un point magnifique parce que on dit de la France, vous parlez parce que nous, c'est les Français ou c'est les Occidentaux? Vous vous reconnaissez dans quel corps?
Moi, pour l'instant, française, moi j'ai été élevée dans cet athéisme, quoi. Mais je ne sais pas ce que c'est en vérité.
Ah.
Voilà.
Hier, Valérie a dit, est-ce que vous êtes athée en activité?
C'était ça. Donc je faisais allusion à ça.
Il est possible que les personnes qui... On peut faire l'hypothèse que certains Français ou certaines Françaises ont peut-être grandi ou dans une tradition déchristianisée, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des Français, parce que tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire, c'est pour ça que ce pays est complètement, incroyablement difficile à saisir. Parce que, en même temps, c'est la petite sœur de l'Église, la petite fille de l'Église, la France, l'Église catholique. Et en même temps, elle a l'héritage révolutionnaire déchristianisé. Donc, la construction d'une grande tradition athée. Mais en même temps, qui est une tradition ridicule par rapport à l'histoire du catholicisme en France. Ce qui fait qu'on a cette espèce de double caractère et qu'on peut et qui après se descend dans d'autres sphères, et c'est pour ça qu'on a des luttes politiques si grotesques ou si caricaturales, si pleines de masques. Et athée en activité, c'est vrai qu'on pourrait dire d'un point de vue théologique, peut-être plein de personnes se pensent athées avant de s'être posé la question. Et évidemment, il vaut mieux ne pas se la poser, parce qu'une fois que tu te la poses, la question, ça devient théologiquement bien plus complexe. C'est pour ça que l'évêque Tyrone, dans la scène avec Stavrogin lui dit « Est-ce qu'on peut croire aux démons sans croire en Dieu ?» Il lui répond « C'est très fréquent. » Stavrogin répond « Ça doit être quand même mieux, ça, que de ne pas croire du tout. » Et lui, il dit « Pas du tout. L'athéisme ou l'athée parfait est plus proche de la foi parfaite que l'indifférence mondaine qui fait que tu as peur des démons tout en rejetant Dieu. » Donc vous voyez, il y a une dialectique qui est bien plus fine, subtile que simplement et Kirillova est athée, elle est athée en croyant à l'athéisme, et en croyant à l'athéisme elle rejoint plus un fervent qui croit en Dieu que quelqu'un qui est complètement indifférent. C'est pour ça que Dostoïevski en fait ce personnage assez drôle, parce qu'il est comme un peu fou, qui dit... En fait, il construit avec Kirillov un Christ, mais athée, en disant « Je vais vous libérer de la question de Dieu, mais pour ça, il faut que quelqu'un se suicide. » Et c'est elle qui va se suicider.
Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez fait de Chatov et de Kirillov des personnages assez importants dans la pièce, plus qu'ils ne sont dans le roman ? Qu'est-ce qui vous a intéressé chez ces deux personnages-là, Kirillova et Chatov ?
Ils sont des ombres projetées et inversées qui cernent et entourent le personnage mystérieux de Stavrogin. Stavrogin, c'est l'être... Ça, c'est Kirillova qui dit ça. C'est l'être qui, quand il croit, ne croit pas qu'il croit. Et quand il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas. Or, Chatov, c'est le personnage qui veut construire le fait de croire tout en étant athée, et Kirillova, c'est le personnage qui essaie de construire qu'elle ne croit pas tout en croyant. Donc c'est comme ils sont comme la représentation physique, l'incarnation, l'émanation physique d'une contradiction qu'on peut tous porter et que Stavrogin porte et dont il essaie de construire le cheminement. Donc ce sont des personnages, ce sont des démons. Mais deux types de démons. Il faut croire absolument. Mais vous savez, en France, c'est comme les... Oh là là, j'allais dire une chose mais terrible. Attends, je me recule. Est-ce que je le dis ? Ouais, je le dis quand même. Si on prend le thème de la laïcité, les gens qui sont... les personnes en France qui sont laïques. C'est-à-dire, en gros, qui pensent que... Tout le monde peut croire en une confession, en sa confession propre et singulière, mais qu'il y a un espace, qu'on dirait l'espace de la République, l'espace public, dans lequel ces prédominances-là ne doivent pas être, ne doivent pas s'exprimer, enfin, doivent s'exprimer d'une certaine manière. Bon, bah, eux, ils peuvent croire en une laïcité avec une grande ferveur, une ferveur de une foi, en fait, la foi en la laïcité. Bah c'est un peu pareil, ça me fait un peu pareil. C'est-à-dire, la croyance qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, il faut développer la même force de croyance dans sa négation que dans sa position. Et c'est ça qui produit des conflits entre les êtres et dans les êtres et dans les corps et qui font rentrer les corps dans des crises absolument mystiques, en fait. Même quand il s'agit de non-mysticisme, vous voyez ?
to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah.
Je voudrais revenir à votre personnage, Nicolas Bouchaud, qui cite le philosophe Adorno, représentant de l'école de Francfort. Est-ce que vous avez... déjà, je voulais savoir si ça venait de vous. Pas la citation, mais est-ce que c'est vous qui avez...
Non, c'est Sylvain qui a apporté le texte.
Ah voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il vous a donné à lire des penseurs, autres qu'Adorno ?
À lire directement, non, mais on a parlé de choses et un jour, Sylvain m'a envoyé un mail qui était le texte d'Adorno qui s'appelle « Résignation » et qu'il a écrit un peu à la fin de son parcours, de sa vie, quand il était attaqué en tant que philosophe et en tant que penseur par les mouvements d'extrême gauche qui disaient entre autres « Vous faites que penser, il faut agir » et tout ça. Et il donne une réponse sous la forme de ce texte qui est un texte assez beau et aussi assez énervé dans sa façon de dire les choses. Et voilà, et ça c'est typique de ce que je racontais tout à l'heure sur, ou de ce qu'on racontait sur comment une dramaturgie peut se faire en répétition et dans le travail sans que les choses soient forcément pensées avant et tout ça, c'est que dans tout ce temps de répétition, qui a été long parce qu'il a été aussi sectionné par des moments où on a arrêté de répéter, ce qui est pas mal en fait, Sylvain m'envoie un texte d'Adorno et voilà, comme ça pour le lire au début, et puis un jour il dit on l'essaye sur le plateau, voilà. Et c'est effectivement, c'est quelque chose. Alors c'est pas Stepan Trofimovitch Verkhovinsky de Dostoïevski, c'est Stepan Trofimovitch Verkhovinsky du spectacle qu'on a fait. Et tout d'un coup, ce texte d'Adorno re-raconte aussi le conflit avec Piotr, c'est-à-dire avec son fils, qui lui dit « Vous nous faites chier avec vos penseurs et vous nous faites chier avec vos pensées libérales et vous nous faites chier et nous, on va assassiner le tsar et puis voilà, c'est comme ça. » Et l'autre, son père, il ne comprend pas. Il dit « Mais attendez, qu'est-ce que vous avez dans la tête ? C'est plus facile de couper des têtes que d'avoir des idées. » Voilà. Et donc, il se lance dans ce grand texte désespéré. Voilà.
Il y a quand même une sensation dans le roman que Dostoïevski, et aussi ça raconte sa propre jeunesse, met dans ce qu'il était en train d'observer de la jeune génération des années 70, semble mettre dans cette génération en cause la génération précédente, c'est-à-dire comme si une génération était le produit de la génération qui l'a précédée. Et évidemment, c'est très commode cette pensée, puisqu'il suffit de faire tomber la question des pères sur la question des fils. Et quand il n'y a plus Dieu, et donc quand il n'y a plus un père qui regroupe que des frères et des sœurs, alors évidemment la chose devient, vous voyez, on voit bien comment ça se construit d'un point de vue intellectuel. Il y avait cette même chose dans le texte d'Adorno avec la jeunesse de 68 dans une Allemagne au passé très difficile à détisser, à retisser. Donc, c'est la génération de 45 et qui arrive à 20 ans en 65 est une génération en RFA. Je ne parle même pas en Allemagne de l'Est, mais en Allemagne de l'Ouest. On le voit dans le théâtre de Fassbinder. Est une génération explosive qui se pose la question de ce qu'ont fait leurs parents, la génération précédente. Et dans cette génération précédente, il y avait eu des résistants, des combattants, et notamment l'école hétérodoxe de philosophie allemande, d'Adorno, d'Horkheimer. L'école de Francfort. Et la pensée philosophique de Benjamin, la pensée philosophique de Günther Anders. Et donc, cette génération de pensée, dans le corps d'Adorno, là, tout d'un coup, voit la génération sortir dans la rue dans les années 70, qui est presque une manifestation de feu. Et il y a un conflit là, il y a un conflit entre Adorno et cette jeune génération. Et donc je ne pouvais pas m'empêcher d'en voir dans une autre forme, enfin quand même légère, très différente, mais quelque chose qu'il y avait aussi entre Stepan et la génération de laquelle il a été le précepteur. Mais la génération dont il a été le précepteur, toutes les figures de cette génération semblent être la conséquence de cette cause-là. Bon, alors c'est très drôle, parce que si vous voulez, c'est comme quand je vois la génération, la mienne, qui passe son temps à faire des spectacles en disant, en pleurant, en pleurnichant sur la génération de d'avant, 68, ouais. Des parents en disant, vous avez fait un monde de rêve et tout. Oui.
Ouais, ouais. Vous nous et avez tu dis rien... que t'aimes pas ce truc-là.
Je déteste ça, parce que ouais. Je trouve réactionnaire. D'une part, je trouve que c'est un héritage formidable, difficile, qui se recontextualise dans un tout autre monde qu'en 70, que nous avons grandement à faire, qu'il n'est pas temps de baisser les bras, qu'il faut construire les armes théoriques et pratiques pour essayer de lutter sur ce qui nous semble être impossible, injuste, dépersonnalisant, un monde insensible. Donc nous sommes très, 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 très chatouilleux. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut produire des textes en disant « papa, maman, bobo, c'est ridicule ». Donc on arrête, on se réunit, tu vois ce que je veux dire ? On articule et puis on jump, quoi. Parce que c'est, tu vois, on va pas pleurer. J'aurais bien aimé voir ce que on dit, ce que notre génération dirait si on avait eu des parents conservateurs et enfin voilà. Donc après c'est vrai que nos parents sont vraiment des gens foutres, mais c'est pas une raison pour pas leur rendre hommage et reprendre. C'est difficile, c'est notre contexte. Mais en même temps, il faut écouter, et en même temps, il faut sentir les spectacles. Je dis ça parce que j'ai vu des compagnies amies, et moi-même aussi, dans certains travaux où effectivement, à un moment donné, quand une réalité semble bloquée, tu te dis qu'elle vient de... que la cause est dans ce qui a produit ces conditions.
D'avant, ouais.
Voilà. Bon, c'est plus compliqué que ça. Et moi, j'ai des amis... qui n'ont rien lâché de cette tentative, de cette hypothèse, et je trouve qu'elle est formidable, et que c'est pas dans l'autorité, c'est pas dans la figure du père, c'est pas dans la figure du roi, c'est pas dans la figure de Dieu, c'est pas dans la figure de la nation qu'on va se trouver une issue de secours. Pas du tout. C'est en continuant le chemin difficile d'organiser la société avec des personnes qui ne produisent pas des fétiches morbides pour s'incliner, quoi. Attendez, parce que là, il est tôt le matin, on est en train de partir sur des trucs très complexes. Je sens qu'on n'est pas tout à fait... On n'est pas tout à fait en place. Attends, on va se... vas-y.
On va se re...
On pourrait aussi faire... Non, non, mais il faut faire très gaffe, parce qu'après, derrière... Tac, ça dure combien de temps, l'émission ?
On a tout notre temps. On a tout notre
temps. Ah ouais, d'accord. Parce que je peux aussi vous faire des petites poésies, des petites pastorales, des églogues. On peut aussi... Ah ouais, on peut aussi construire... Faut pas dire n'importe. Enfin, on peut y revenir sur les questions. Vous pouvez monter. Vous montez votre émission.
Oui.
On est complètement en live direct. Ça va être. Ouais, c'est ça. Là, là.
Faut que on va continuer. On va continuer parce que moi j'ai une autre question là-dessus. Sur l'héritage. Je demande Axel Honneth, qui est actuel directeur de l'institut.
Mais
qui...
oui, vous connaissez. Ah vous avez lu La Société du mépris et tout ça. Mais je vous vois. Ah oui, vous avez préparé le truc sérieux. Espèce de continuateur de l'école de Francfort. Oui. Ah oula, c'est sérieux. Allons-y. Axel Honneth. Ouais, putain, je savais pas qu'on allait partir là. On est vraiment sur les cimes. Allons-y.
C'est énorme.
Donc pour Axel Honneth, actuel directeur de l'Institut qui a hébergé l'école de Francfort, au sein de laquelle est élaborée la théorie critique. Alors je cite... Nos sociétés sont travaillées par une contradiction étonnante et inexplicable. Jamais autant de gens n'ont simultanément dénoncé les conséquences sociales et politiques générées par la mondialisation. Jamais autant de gens n'ont été incapables de dépasser l'état de choses existant et d'imaginer un état social innovant au-delà du capitalisme. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sylvain Creusevaux ?
Si j'ai proposé le texte d'Adorno, le texte Résignation, c'est vrai que je ne peux parler que personnellement, mais c'est vrai que il arrive des heures où face au sentiment d'une réalité si bloquée, on en vient et il faut écouter ce sentiment personnel, parce que c'est un affect minuscule, c'est parfois des affects, c'est pas qu'ils sont minuscules, mais je veux dire quotidiens, minuscule, mais au sens de Pierre Michon à ce moment-là, mais c'est-à-dire et qui peuvent faire naître des actions gigantesques, et notamment l'hypothèse de la d'un passage à l'acte violent, parce que parfois quand on construit un rapport de tendre son esprit, d'étudier, de construire les pratiques de vie autres, ou les formes de lutte contre un système d'oppression ou d'exploitation qui nous semble irrecevable et inacceptable, mais qui est une machine de guerre, qui est une machine molaire, qui est une chose gigantesque et qui n'a pas qui semble n'avoir pas d'auteur. D'auteur, je me souviens d'un vieux professeur qui a tué sa femme, qui disait « Le capitalisme est un texte sans auteur », d'où la difficulté de le saisir. Et parfois, la réalité, comme aujourd'hui, semble à ce point bloquée, que nous viennent des volontés, des désirs de passage à l'acte qui frisent l'absurdité. Non pas qu'ils la frisent parce qu'on veut... et parfois on veut faire une bêtise ou une chose bêtise au sens d'une chose qui n'a pas d'intelligence, qui est bête et qui est en fait simplement l'expression sur le plan symbolique de la violence et le plan réel de la violence, et qui n'est pas très constructif, qui est très destructif, quoi, et qu'on cherche un caractère constructif à cette destruction. Mais la lente destruction, la destruction qui demande la patience d'un horloger, c'est-à-dire le détissage jusqu'aux origines qui produit les ombres projetées monstrueuses ou morbides, parfois on est éreinté, on tombe de fatigue en fait, et donc là on veut casser la table. Vous voyez ce que je veux dire? La tabula rasa, elle vient parfois du geste de foutre par terre tout ce qu'il y a devant soi, parce qu'on n'arrive plus à agencer les choses différemment. Il faut donc ce sentiment là je peux comprendre qu'il soit un matin t'es tout déprimé et tout d'un coup tu construis l'ouverture dans ta tête et donc après dans ton corps d'un passage à l'acte violent et ridicule. Mais après il y a des résistances, mais c'est pas pour faire une critique de la violence, hein, parce que c'est porter l'attention sur la violence est tactiquement et stratégiquement complètement ridicule d'un point de vue de la lutte contre l'état de choses existant. Mais je reste persuadé que la construction du communisme, par exemple, ou simplement d'une certaine lutte contre l'état de choses existant, c'est ce que Karl Marx appelait le mouvement réel qui détruit l'état actuel, hein. C'est-à-dire c'est la construction de quelque chose qui essaye de dépasser tout en conservant, qui n'est pas forcément une destruction, qui n'est pas forcément une tabula rasa. La critique, on peut en faire, ça y est, on a compris, la tabula rasa, vous voyez, c'est pas une idéologie du ciel qui tombe et on a vu que ça, y a pas d'homme nouveau. Et puis hop, tout le monde est nouveau, et puis ça ne fonctionne pas. C'est bien plus dialectique. Il y a des choses qui se dépassent en étant conservées, il y a des choses qui se dépassent en étant détruites. Donc cette lutte-là, c'est pas qu'elle a jamais été aussi forte, on ne sait pas. Quand Axel Honneth il écrit ça, c'est parce que là on est vivant, c'est dans nos corps et on voit ce que peut un corps et ce qu'il peut pas, ce qu'il peut ressentir et ce qu'il peut faire. Donc c'est faramineux la capacité que nous avons de nous adapter au pire, quoi. Bon, alors là, je viens de me déprimer. mais on y travaille. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Les forces morbides, il faudrait dire quelque chose, mais il ne faudrait pas être déprimant. Et puis, il faudrait dire quelque chose, et c'est très tôt. Et puis, c'est compliqué de rassembler ses esprits. Mais je veux dire, si je schématise, les gens qui se représentent eux-mêmes appartenir à l'héritage ou simplement construire un rapport avec un héritage de gauche, pour aller vite, hein, parce que c'est compliqué. Mais on a passé le temps à faire la critique des hypothèses qui parfois dans leur réalisation pratique ont donné des choses absolument affreuses, ou totalitaires et ridicules. Et où l'esprit et la vie étaient en fait étiolés, des entreprises de suffocation de la vie vivante, humaine. On passe le temps de faire les critiques pour essayer de rénover l'hypothèse, c'est-à-dire la construction d'un plan social immanent, sans Dieu, qui soit vivable, souhaitable, soutenable, émancipateur, où les rapports humains ne sont pas capturés par des pouvoirs ou par des formes de pouvoir, de circulation de pouvoir qui réduisent la dignité et le droit à peau de chagrin. Donc on passe notre temps à refaire cette critique. Pendant ce temps-là, les forces morbides qui nous traversent aussi ne sont pas critiquées, se développent, s'organisent. Certaines formes, comme la forme bureaucratique, la forme parti, la forme militaire, qui sont des très efficaces d'un point de vue de l'organisation. Et nous, alors je dis nous, ce nous faut arrêter aussi parce que c'est un étalon vide, tout le monde dit nous, puis on sait tout. Ah ben nous, du moment que j'ai dit nous, je peux ne pas sortir chez moi, mais le problème c'est qu'il va falloir s'organiser, tu vois. Et donc il faut se rencontrer, il faut parler, il faut construire, il faut faire des actions, il faut que sur le plan des réalités, il faut construire quelque chose qui soit... Putain, je n'arrive pas à parler. Vous voyez, c'est difficile même à dire. Mais non, mais attendez, parce qu'on fait du théâtre. Mais on fait du théâtre. Mais on ne fait pas que ça. On fait entre autres du théâtre. Et on essaie de faire des théâtres, du bon théâtre avec mon machin. Mais aussi, on ne va pas... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Parce que là, ça y est, c'est partout. Les fantoches se redressent. On a... Non, mais c'est trop vaste. Je n'ai pas fini. Mais c'est pour dire... Je vais prendre un exemple phénoménal sur le plan du langage. Bon, les partis au sens politicien, ils ont du plomb dans l'aile. Donc tout le monde est là et veut faire des mouvements. Alors les mots changent, hein. On pense qu'avec les mots, les choses vont changer. Et il y a des mots que l'extrême gauche, je caricature, parce que je déteste parler comme ça, mais sinon on se comprend pas. Et les Toulousains, les Toulousaines, les Bordelais, les Bordelaises, tout le sud-ouest français doit nous saisir là. Nous devons là nous rassembler. Bon. Alors donc l'extrême gauche, qui est très clairement l'avenir de l'humanité. Il faut quand même, sur le plan social, il faut quand même comprendre que... Parce que les gens pensaient derrière nous, je suis complètement devant nous. Il faut simplement saisir que... Il faut qu'on... Comment dire on ne veut plus utiliser certaines formes d'organisation parce qu'on a vu qu'à l'œuvre, elles deviennent autoritaires. D'accord? Mais ça, c'est ce que dit Adorno de l'anarchisme. Et c'est que c'est tellement difficile de s'organiser sans ce plan-là qu'on finit par ne plus rien faire et que ce qui était combattu, c'est-à-dire un grand individualisme, on y revient mais en défensive parce qu'on n'arrive même plus à quatre à s'organiser et ça devient aberrant. Donc on a des formes de lutte qui ont du mal à s'agréger les unes aux autres aussi parce que la critique à l'intérieur de notre parti rend l'action difficile. On ne veut pas agir et faire des actions absurdes et reproduire les erreurs que l'histoire nous enseigne et que la critique et que la construction d'une histoire, parce que l'histoire n'est pas le passé, donc l'histoire est une construction du présent. Ce n'est pas une construction du passé, l'histoire. Et si l'histoire, c'est une construction du présent, c'est pour rendre le présent maniable. Hein ? C'est pour faire advenir les non-advenus du passé, l'histoire. C'est pour s'organiser pratiquement. C'est un entrepôt d'armes. Enfin, d'armes. Il s'agit pas forcément de faire une armée de soldats, mais il s'agit de faire. Bon, tu comprends ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire là, c'est que le mec part complètement en vrille. Non, mais je suis vraiment. Non. Mais ce que je veux dire. Non, mais parce que ça doit être joyeux et tout ça, mais je veux dire, on va pas passer notre temps à dire on avait les plus belles chansons. Ouais, On va pas dire non mais bon on a perdu mais on avait les belles chansons. On va pas passer notre temps pendant 100 ans à dire nous sommes les vaincus de l'histoire mais on préfère être les vaincus que les vainqueurs. Nous on veut, enfin nous c'est pas nous, c'est nous devons maintenant construire un plan d'immanence, de pratique, de vie autre qui nous est dans, et de et qui fait qu'on est face à qu'on n'est pas ridicule dans le rapport de force.
Vous venez d'écouter à l'instant la première partie de l'entretien avec le metteur en scène Sylvain Creusevaux et le comédien Nicolas Bouchaud à l'occasion des représentations des démons au Théâtre de la Cité à Toulouse du 14 au 17 mai. C'était Emprise. Rendez-vous lundi prochain à 18h pour la suite et la fin de cet entretien ou en podcast sur radio-toulouse.net.